À 7h44 sur Transistor, dans la matinale de la JDR. Après ici, nous partons billet d'ailleurs. Rebonjour Marie.
Bonjour Rémi. Alors, pour ce billet d'ailleurs de bon matin, j'ai choisi de vous parler d'un sujet complexe qui fait couler beaucoup d'encre, mais qui pose aussi tout un tas de questions et demanderait parfois quelques explications. Alors cette fois-ci, pas d'élection, je me doutais bien que vous alliez commencer à en avoir marre. Je vous propose aujourd'hui d'évoquer le génocide rwandais, dont on commémore actuellement les 25 ans.
Oula, alors c'est peut-être vrai que c'est un sujet qui fait la une des journaux en ce moment, mais est-ce que ça ne vaudrait pas un petit rappel des faits ?
Alors, en effet, de quoi parle-t-on vraiment quand on parle du génocide rwandais ? Eh bien, je vous propose un bref retour en arrière. Le génocide rwandais, c'est l'extermination entre avril et juillet 94 de centaines de milliers de Tutsis, un groupe ethnique habitant la région des Grands Lacs, et de Hutus pacifiques. Mais alors, pour quel motif ? Eh bien, pour comprendre, il faut remonter quelques années en arrière.
Quelques années en arrière, lors de la guerre civile rwandaise, c'est ça ?
C'est ça. Entre 90 et 93, deux camps s'opposent au Rwanda. D'un côté, le gouvernement rwandais, constitué principalement de Hutus, ce peuple d'Afrique centrale représentant la majorité de la population rwandaise, et soutenu par la France. De l'autre, le FPR, Front Patriotique Rwandais, dirigé par Paul Kagame, un parti accusé de vouloir forcer le retour au Rwanda des Tutsis exilés de leur pays. Mais alors pourquoi une telle guerre et de quel exil parle-t-on ici ? Eh bien en fait, en 1959, les Hutus se révoltent, mécontents de ne pas faire partie du gouvernement et à cran suite à la rumeur de l'assassinat d'un homme politique Hutu. Ils chassent et massacrent les Tutsis, minoritaires, et les Tutsis, comme le gouvernement en place, sont obligés de quitter leur pays pour l'Ouganda. Suivront des gouvernements Hutus autoritaires et hostiles aux Tutsis. Mais en 1987, des exilés Tutsis créent un parti politique, le FRP, donc Front Patriotique Rwandais, dans le but de négocier les retours des Tutsis exilés en Ouganda. Mais ce parti ne s'arrête pas aux revendications et il envahit le Rwanda depuis l'Ouganda. Nous sommes en octobre 90 et c'est le début de la guerre civile. En 1994, du coup, des accords, les accords d'Arusha, prévoient le départ des troupes françaises et la formation d'un gouvernement de transition pour la réintégration des Tutsis dans leur pays. Mais ce qui a servi aux Hutus de prétexte pour exterminer les Tutsis qui ne voulaient pas voir revenir au Rwanda, c'est l'attentat du 6 avril 1994.
Un attentat qui a conduit à l'assassinat des présidents du Rwanda et du Burundi.
Exactement. Un tir de missile a en effet abattu l'avion dans lequel se trouvaient les présidents du Rwanda et du Burundi. Et fait important, le président rwandais revenait justement de Tanzanie, où il avait signé les accords d'Arusha avec les rebelles Tutsis du Front Patriotique Rwandais, un accord signé, bien sûr, contre l'avis des extrémistes Hutus. Quels sont donc les coupables ? Eh bien, deux hypothèses sont avancées. Le FPR, l'adversaire du régime en place, ou bien les extrémistes Hutus, mécontents de l'avancée des négociations visant à réintégrer les Tutsis, et notamment le général Bagosora, qui a pris le pouvoir par un coup d'État après l'attentat et qui a été, on le sait, fermement opposé à la signature des accords d'Arusha par le président rwandais. Alors le coupable n'a toujours pas été clairement défini, et on a aussi avancé d'autres thèses quant à l'identité des coupables, des soldats belges ayant aidé le FRP ou bien des militaires français.
Donc une responsabilité pas encore bien définie, mais des enquêtes qui ont dû se succéder depuis.
Oui, une enquête menée par les militaires français immédiatement après l'attaque, mais restée secrète, des tentatives d'enquête de l'ONU, puis trois enquêtes plus importantes. La première, c'est celle du Parlement français menée en 98, qui remet en cause l'hypothèse de la culpabilité des FRP. La seconde est celle du juge antiterroriste Jean Bruguière, enquête achevée en 2006, qui désigne, elle, le FPR comme coupable de l'attentat et qui accuse le président Paul Kagame, d'avoir cherché à empêcher la poursuite des enquêtes françaises accusant le FPR. C'est suite à cette enquête que la France contribuera au lancement de 9 mandats d'arrêt internationaux contre les proches du président, un événement qui aboutira à la rupture des relations diplomatiques entre France et Rwanda. La troisième enquête, achevée en 2017, est celle des juges Marc Trévidic et Nathalie Pou. Après une enquête sur les lieux mêmes de l'attentat, une étude des types et des trajectoires possibles des trois missiles ayant touché l'avion, il conclut que les tirs sont partis d'un camp militaire inaccessible au FPR et qu'ils ont été planifiés par un commando professionnel. En bref, ce sont cette fois-ci les extrémistes Hutus qui sont désignés coupables. Une hypothèse confirmée par l'enquête menée par une commission rwandaise qui conclura elle aussi à la responsabilité des forces armées rwandaises, donc des Hutus et pas du FPR. On pourrait également citer ici les nombreuses enquêtes de journalistes, d'universitaires ou de politologues, mais je crois qu'il est temps d'aborder un autre sujet qui pose question.
Oui, ce qui fait débat en ce moment, c'est la possible implication de la France dans ce génocide rwandais.
Oui, en effet, c'est une question qui fait beaucoup parler. Mais alors, pourquoi la France serait-elle responsable ? Eh bien, elle est accusée d'avoir soutenu des extrémistes Hutus responsables du génocide, et ce, pour deux grandes raisons. D'abord, parce qu'elle a soutenu militairement et financièrement, et qu'elle a reçu à Paris des ministres du gouvernement rwandais, qui était un gouvernement, on le rappelle, Hutu et extrémiste d'abord. Et ensuite, parce que la France, il s'est avéré, a livré des armes à l'armée rwandaise luttant contre la guérilla Tutsi.
Les commémorations sont donc peut-être le moment de s'intéresser vraiment à la question de la responsabilité de la France dans ce conflit.
Alors exactement, et Emmanuel Macron a d'ailleurs annoncé la mise en place d'une commission d'historiens et de chercheurs chargée d'étudier les archives françaises concernant le Rwanda. Une décision saluée par beaucoup, certes, mais critiquée aussi, puisque la commission exclut des chercheurs ayant fourni un important travail sur le génocide contre les Tutsis, Stéphane Audouin-Rouzeau et Hélène Dumas. Le problème aussi, c'est que même si plusieurs notes et télégrammes diplomatiques ont été diffusés en France, les archives restent jusqu'en janvier 2021 sous contrôle de la mandataire désignée par Mitterrand, Dominique Bertinotti, et c'est donc elle qui peut décider ou non de rendre ces archives publiques.
Des progrès donc, mais ce n'est pas encore ça. Et d'ailleurs, comment commémorer un événement aussi tragique 25 ans après ?
Eh bien, au Rwanda d'abord commence une période de deuil national de 100 jours. 100 jours, comme le temps qu'a duré ce massacre de masse contre les Tutsis et les Hutus modérés. Mais à l'occasion des 25 ans de génocide, on peut aussi chercher à agir. C'est le cas d'Alain Gauthier, qui recherche les génocidaires réfugiés en France pour les faire juger. C'est aussi le cas d'Ibuka France, une association d'aide aux victimes et rescapés du génocide, ou, dans une moindre mesure, du gouvernement, qui a aussi annoncé un renforcement des moyens judiciaires et policiers pour poursuivre les participants du génocide qui se trouveraient en France et qui veut faire du 7 avril une journée de commémoration. On peut enfin, comme le fait le musicien et écrivain rwandais Gaël Faye, agir avec les mots en allant au-delà des statistiques pour construire une société nouvelle. Il ne faut pas, je le cite ici, faire du beau avec ce qui s'est commis ici, mais trouver des mots d'apaisement. Alors aujourd'hui, même si certains génocidaires sont toujours en fuite et que les corps de milliers de victimes n'ont pas été retrouvés, certaines victimes cohabitent avec leurs bourreaux et le pays se reconstruit lentement. Dans son discours prononcé au centre de convention, un emblème du renouveau du pays, le président Kagame l'a affirmé. En 1994, il n'y avait pas d'espoir, seulement les ténèbres. Aujourd'hui, la lumière irradie de cet endroit. Pourquoi ? Parce que le Rwanda est redevenu une famille. Un discours contesté, mais qui invite à continuer vers la voie d'une réconciliation déjà bien entamée.
Merci beaucoup Marie pour ce billet d'ailleurs sur cette situation, cette commémoration. Au Rwanda à 7h51, vous êtes toujours à l'écoute de Transistor en direct bien sûr du Théâtre Cantor à l'ENS de Lyon. C'est l'heure de ta revue de presse. Bonjour Mathilde.
Bonjour Rémi.